VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir chez vous, Eric Manilakiza pour vous présenter cette deuxième édition de la soirée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, jeudi 23 février 2017. D'abord le sommaire. Des soldats tués au Niger et plusieurs personnes blessées dans une attaque contre un détachement de l'unité antiterroriste. Deux archéologues allemands enlevés, deux villageois abattus dans l'état de Kaduna au Nigeria. Épidémie de méningite au Burkina Faso qui accueille samedi le FESPACO, le festival du film africain. Peur, panique aux États-Unis dans les rangs des sans-papiers. Une centaine de Sénégalais vont être expulsés.
Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a pris un communiqué faisant état d'expulsion de Sénégalais des États-Unis au nombre de 137.
Et restez branchés, les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Niger, attaque hier dans l'après-midi contre une patrouille militaire à Oualam, dans le nord-ouest du pays, à la frontière avec le Mali. L'armée enregistre deux morts dans ses rangs, mais d'autres sources annoncent un bilan beaucoup plus lourd. Les précisions de notre correspondant Niamey, Abdulazak Idrissa.
L'attaque a eu lieu selon un communiqué du ministère de la Défense nationale aux environs de 16 heures à quelques kilomètres de Tiloa. Bilan, 2 morts, 18 blessés et 14 portés disparus parmi les militaires nigériens. Le communiqué ajoute que des opérations de ratissage ont été engagées pour neutraliser les terroristes en fuite. Un peu avant ce communiqué officiel, des bilans plus lourds ont été annoncés. Il s'agit notamment de celui qui fait cas de 11 militaires nigériens tués et plusieurs autres portés disparus, ainsi que des véhicules de l'armée nigérienne. Emporté. Une source sécuritaire de VOA Afrique ainsi qu'un élu de la zone de l'attaque confirme un bilan similaire. La localité de Oualam est située à une centaine de kilomètres de la capitale Niamey. Elle est fréquemment ciblée par les attaques des groupes djihadistes du Nord Mali dont elle est frontalière. La dernière remonte au mois de novembre 2016 avec un bilan officiel de 5 soldats nigériens tués. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, la force Barkhane a tué 4 membres d'un groupe terroriste dans la région de Bouguissa. Le porte-parole de l'état-major de l'armée française, le colonel Patrick Steiger, a affirmé que les soldats français ont saisi 2 mitrailleuses lourdes, 2 lance-roquettes, 4 fusils d'assaut Kalachnikov et des centaines de munitions pendant cette opération. Signalons que les premières patrouilles mixtes formées de soldats maliens combattants de groupes pro-gouvernementaux et de l'ex-rébellion ont été lancés aujourd'hui à Gao. Au Nigeria, 2 archéologues allemands ont été kidnappés hier dans le village de Djenjela, situé dans le sud de l'état de Kaduna. De villageois qui ont tenté de leur venir en aide ont été abattus par les ravisseurs. Claire Morin-Gibor.
L'enlèvement a été confirmé par Ousmane Aliou, porte-parole de la police locale. Les 2 hommes étaient bien connus dans le village. Ils travaillaient depuis 10 ans sur le site d'archéologie dans cette région connue pour ses figurines, Nok en terre cuite. Les 2 archéologues n'ont pas voulu bénéficier de l'escorte de sécurité de la police, préférant rester avec les riverains. Les 2 femmes qui les accompagnaient n'ont pas été enlevées. Le kidnapping a eu lieu à une trentaine de kilomètres de la route reliant l'aéroport de Kaduna à la capitale fédérale Abuja. Cet enlèvement inquiète les autorités car l'aéroport d'Abuja doit être fermé pour 6 semaines à partir du 8 mars pour des travaux de réparation du tarmac. Les vols intérieurs doivent être détournés sur Kaduna, situé à 160 km au nord d'Abuja. Les passagers seront alors convoyés par des bus sécurisés jusqu'à la capitale. Les compagnies internationales comme Air France ont refusé d'utiliser l'aéroport de Kaduna en raison des infrastructures vétustes et des problèmes de sécurité.
Restons dans le Sahel, où la région du lac Tchad constitue la plus grande crise du continent africain, selon les Nations Unies. Demain, la conférence internationale d'Oslo vise à réunir 1,4 milliard d'euros pour aider les populations civiles touchées par l'insurrection islamiste de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, l'extrême nord du Cameroun, l'ouest du Tchad et le sud-est du Niger. Quelques 17 millions de personnes vivent dans les zones les plus touchées par le conflit. L'on compte au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés, ce qui a aggravé une situation humanitaire déjà difficile. Près de 75 000 enfants sur les 515 000 souffrant de malnutrition aiguë sévère risquent de mourir. 16 morts en 3 jours en RDC dans des affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion du mouvement du M23 du 23 mars dans l'est du pays au nord Kivu. Nous sommes dans les Grands Lacs. Selon le porte-parole, le major Guillaume Djike, l'armée a capturé 5 rebelles tandis que 58 autres se sont rendus. Le président du M23, Bertrand Bissimwa, a prévenu dans un communiqué un risque de conforter la logique de la confrontation. Il dénonce le choix du gouvernement de Kinshasa d'imposer la guerre aux ex-combattants retournés au pays. L'Afrique du Sud, encore confrontée à des actes xénophobes. Le ministre de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a tenté aujourd'hui de calmer les esprits. Ces violences dirigées contre des émigrés ont ravivé le spectre des émeutes xénophobes meurtrières de 2015 et 2008. Le Nigeria a convoqué l'ambassadeur d'Afrique du Sud pour exprimer sa profonde préoccupation après justement ces récentes violences. Depuis 2 semaines, des riverains en colère à Johannesburg et dans la capitale du pays, Pretoria, ont brûlé plusieurs bâtiments occupés par des étrangers et soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou du trafic de drogue. En Angola, 37 personnes risquent des peines de 6 à 8 ans de prison et sont accusées d'une mystérieuse tentative du coup d'État contre le président José Eduardo dos Santos. Cette tentative aurait échoué le 30 janvier 2016 aux portes du palais présidentiel. La justice angolaise présente ces putschistes présumés comme des membres de l'ex-rébellion de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA. L'UNITA qui était dirigée par le rebelle Savimbi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, visite aujourd'hui au Mexique du chef de la diplomatie américaine et du ministre américain de la sécurité Rex Tillerson et John Kelly. S'entretiennent avec le président Enrique Peña Nieto et des membres du gouvernement mexicain sur diverses questions bilatérales comme l'immigration, le commerce et la lutte contre le trafic de drogue. Le point avec Timothée Donangmaï.
Les autorités mexicaines sont très remontées contre la politique du président Donald Trump en matière d'immigration, en particulier sa décision d'expulser massivement les sans-papiers, dont quelques 6 millions de Mexicains. Elles ont vivement dénoncé son projet d'ériger un mur le long de la frontière commune et d'en faire payer le coût, estimé à au moins 12 milliards de dollars, par le Mexique. Cette controverse avait amené le président Enrique Peña Nieto à annuler un voyage prévu en janvier ici à Washington. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et le ministre de la Sécurité John Kelly ont donc la mission de rassurer le gouvernement mexicain quant à la volonté de Washington de préserver les bonnes relations avec Mexico, des relations saines et robustes, a tenu à souligner le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Le Mexique n'acceptera pas les nouveaux projets unilatéraux des États-Unis en matière d'immigration et n'hésitera pas à saisir les Nations Unies, a averti le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray.
C'était les détails de Timothée Donangmaï. Au Proche-Orient, étape décisive dans la bataille de Mossoul en Irak. Les forces pro-gouvernementales ont repris aujourd'hui l'aéroport dans le sud de la ville au groupe État islamique, selon la télévision publique irakienne, ce qui ouvre la voie à la véritable bataille pour le contrôle de la partie ouest de Mossoul. N'est-ce pas, Jacques?
L'assaut a été déclenché au cinquième jour de la nouvelle offensive pour finir de reprendre la totalité de la deuxième ville d'Irak, un mois après la reprise de la partie est de Mossoul, dernier bastion du groupe État islamique. En début de semaine, les forces irakiennes avaient déjà repris plusieurs villages situés dans une zone désertique. D'après le commandant des forces du ministère de l'Intérieur, Hicham Abdul Kadem, ses troupes et celles des unités antiterroristes sont entrées dans l'aéroport et nettoient les routes des engins explosifs laissé par les djihadistes. Le colonel américain John Dorian, porte-parole de la coalition internationale, a indiqué pour sa part que des soldats américains qui participent aux opérations ont essuyé des tirs et riposté dans et autour de Mossoul. Il n'a indiqué aucun bilan et aucune information n'a filtré non plus sur des pertes dans les rangs des forces irakiennes ou du groupe État islamique. L'aéroport tombé aux mains des djihadistes en juin 2014 et le complexe militaire qui comprend des casernes et des terrains d'entraînement sont situés près de l'axe routier Bagdad-Mossoul.
Merci à Jacques Aristide. L'armée israélienne a abattu aujourd'hui au-dessus de la Méditerranée un drone du Hamas, le mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza. Une porte-parole de l'armée a indiqué que le drone est tombé en mer sans survoler le territoire israélien frontalier de la bande de Gaza. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, on en parle avec Morgane Guiriec.
Cacao, la Côte d'Ivoire va mener un audit de sa filière en difficulté. Le premier producteur mondial de cacao fait face à une mévente de la récolte à l'origine de récentes manifestations des planteurs. La situation est essentiellement due au défaut d'exécution de certains contrats et à la sous-évaluation de la production sur la campagne principale, le tout pour un volume cumulé d'environ 350 000 tonnes, explique le ministre ivoirien de l'Agriculture. Le FMI accorde un prêt de 150 millions de dollars au Bénin. L'objectif est de soutenir le plan de relance économique. Il s'agit également de créer plus de marge budgétaire par la modernisation des administrations fiscales et douanières et l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, indique le Fonds monétaire international. Et enfin, en Égypte, le retour des investisseurs étrangers prendra du temps, en dépit de l'adoption de réformes drastiques, selon des experts. Depuis la révolte de 2011 contre Hosni Moubarak, l'Égypte souffre d'une chute des revenus du tourisme et du ralentissement des investissements.
Une petite détente avec les sports. Nicolas Pinot, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football. En Europa League, ça passe pour Manchester, Nico.
Battu 3-0 au match aller en Angleterre, l'AS Saint-Etienne a quitté l'Europa League hier soir en 16e de finale après un revers 1-0 à domicile contre Manchester United. Match nul un partout entre Fenerbahçe et Krasnodar. Les Turcs sont éliminés. Et après sa victoire 3-0 en Grèce, Schalke 0-4 se contente d'un match nul un partout face au PAOK Salonique. Suite des matchs ce soir, Osmanlı Spor, le club turc contre l'Olympiakos. Après la gifle à l'aller, l'AS Rome qui accueille Villarreal, le Zénith Saint-Pétersbourg qui doit remonter 2 buts d'écart face à Anderlecht, l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit le Legia Varsovie et puis l'Athletic Bilbao qui l'avait emporté sur le fil 3-2 face à l'Apoel Nicosie. À noter également Tottenham contre la Gantoise ou encore le Shakhtar Donetsk contre le Celta Vigo.
Et en Ligue des Champions, la Juventus a un pied en quart de finale.
Rapidement en supériorité numérique, la Juventus Turin s'est imposée sur la pelouse de Porto 2-0 en 8e de finale allée de la Ligue des Champions hier soir. Mais la vieille dame, trop longtemps maladroite pour concrétiser sa longue supériorité numérique, a dû compter sur son banc. En effet, les deux remplaçants Marco Opchaka et Dani Alves ont été auteurs de 2 buts à la 72e et à la 74e minute pour finalement permettre aux Italiens de l'emporter.
Et c'était plus serré à Séville. Hein.
Supérieur dans le jeu, le FC Séville a battu Leicester 2-1, mais les Anglais gardent un espoir de se qualifier. En Andalousie, les buteurs de la soirée s'appellent Pablo Sarabia et Correa pour Séville. Jamie Vardy réduira le score pour les Anglais.
Rendez-vous donc au match retour, Nico, et en candidat malgache pour présider la CAF.
Oui, Ahmad, à la tête de la fédération malgache, se présente comme le candidat du changement et de la transparence à la présidence de la Confédération africaine de football. Il affirme être le seul à oser défier le Camerounais Issa Hayatou en poste, on le rappelle, depuis 1988 et qui briguera un huitième mandat le 16 mars prochain.
Et enfin, des ennuis au Caire pour le gardien El Hadary.
Oui, le légendaire gardien de but égyptien Hassam El Hadary, 44 ans, est menacé par son président de devoir quitter son club Kairot de Wadi Degla après une altercation avec un coéquipier. Il sera privé de match ce jeudi. Aucun communiqué officiel du club n'est pour le moment disponible.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza. C'est la deuxième partie du Monde d'aujourd'hui. À présent, les dossiers du jour. 137 immigrés sénégalais en situation irrégulière aux États-Unis en passe d'expulsion. Les intéressés ont épuisé toutes les voies de recours et les services compétents américains et sénégalais discutent de la mise en œuvre de ces mesures. En sénégalais, expulsables ont déjà accepté le rapatriement volontaire par vol commerciaux. Idriss Fall a joint El Hadj Ndao, le consul du Sénégal à New York.
Effectivement, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a pris un communiqué faisant état d'expulsion de Sénégalais des États-Unis au nombre de 137. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est vrai qu'avant, les pays d'Afrique n'étaient pas tellement, disons, intéressés à un chiffre aussi élevé, parce qu'avant, c'était plutôt les pays d'Amérique latine. Mais on voyait toujours les services de l'immigration procéder à des expulsions. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qu'on leur reproche, c'est d'être ici de manière irrégulière. Soit c'est des entrées irrégulières, et ça, c'est pour la grande majorité des cas. Il y a d'autres cas aussi, mais vraiment très minimes, de cas de, disons, d'infraction et de crime. Et là aussi, c'est des gens qui ont bénéficié de procédures légales. Donc, en tout cas, que nous sachions, on a demandé à ces intéressés, pour la plupart en tout cas, s'ils ont été présentés devant un juge, s'ils trouvent anormal les procédés qui leur a été réservé, mais il n'y a pas de grief à ce niveau. Donc, vous comprendrez que s'il n'y a pas de grief à ce niveau, le consulat général, ou en tout cas le Sénégal, ne peut pas avoir raison de se plaindre d'une procédure.
Est-ce qu'on a idée de combien de Sénégalais vivent illégalement aux États-Unis?
Non, on ne peut pas avoir accès à ça. Ce qu'on peut savoir, c'est combien de Sénégalais à peu près sont aux États-Unis. Bon, on ne peut pas avoir accès à leur statut d'immigration, malheureusement.
Et combien de Sénégalais sont aux États-Unis à peu près?
C'est à peu près entre 80 000 et 100 000 Sénégalais. La grande majorité est à New York, dans le Tri-State Area, mais aussi il y a une importante communauté sénégalaise dans le Midwest, dans la zone du Ohio Valley, dans la zone sud vers Atlanta et aussi dans la zone ouest vers dans l'état de Texas et aussi en allant vers la Californie.
Est-ce que vous avez reçu des pressions de l'administration Trump pour les expulsions de ces Sénégalais?
Pas de pression particulière. Le contexte, nous le vivons tous, les politiques commencent à changer. Alors là, c'est pas, disons, des pressions ciblées au Sénégal ou en quelques pays que ce soit, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a une politique qui change, surtout pour ce qui est de l'immigration, et il faudra prendre note et essayer de s'ajuster par rapport à tout ça.
El Hadj Ndao, le consul du Sénégal à New York.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Oui, le Burundi, dans le pays des mille et une collines, c'est dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, c'est jour pour jour que le journaliste du groupe de presse Iwachu a disparu. La famille de la victime indique qu'elle vit dans la tristesse sans nom. Là, le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Murunziza.
Dans le quartier de Gitouro à Kamenge, au nord de la capitale Bujumbura, la femme du journaliste disparu, Godbert Hakizimana, est en train de lessiver les habits. 7 mois viennent de s'écouler après la disparition de son mari, Jean Bigirimana. S'il est vrai que certains anciens collègues lui donnent une assistance momentanée, Hakizimana ne cache pas sa tristesse. Sans travail, elle se débrouille pour faire vivre ses 2 enfants de 8 et 3 ans, même si elle vient de faire 6 mois sans payer le loyer de la maison. La désolation se lit sur le visage de Godbert Hakizimana.
Chaque 22 du mois, la tristesse et le chagrin s'emparent de nous. C'est le jour où le chef de cette famille a disparu. C'est vraiment la tristesse pour ses enfants et sa famille. Nous vivons difficilement car la vie est devenue très chère. Je n'ai pas de travail, je ne peux pas non plus aller étudier. C'est la désolation. Nous venons de passer 6 mois sans payer le loyer.
Pour le groupe de presse Iwachu, les journalistes qui ont déjà saisi la justice garde espoir que Jean Bigirimana serait toujours en vie. Les témoignages du directeur adjoint de Iwachu, Léandre Sikuyavu.
À Iwachu, c'est la tristesse parce que jusqu'à présent, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Nous avons déposé une plainte contre X au niveau de la justice. Nous attendons toujours. Ce que nous leur demandons, c'est de redoubler d'efforts pour que la lumière soit donnée et sa famille puisse savoir ce qui est arrivé envers notre confrère Jean.
Les chances de retrouver le journaliste Jean Bigirimana s'amenuisent de jour en jour. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi estime qu'une fois les auteurs de cette disparition retrouvés, ils seront punis conformément à la loi. Jean-Baptiste Baribonekereza.
Du point de vue de la CNDH, le dossier reste ouvert. En fait, nous sommes dans une procédure qui devrait aboutir par la connaissance exacte des circonstances dans lesquelles le journaliste a disparu, de pouvoir identifier les auteurs de cette disparition, de pouvoir les traduire en justice au cas où les informations obtenues étaient suffisamment convaincantes pour un dossier judiciaire identifiant les auteurs.
Tout le monde appelle les autorités burundaises à s'investir davantage pour que la vérité sur la disparition de Jean Bigirimana soit connue. Human Rights Watch indique que la famille de Jean Bigirimana a droit à une enquête indépendante et approfondie. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Burkina Faso fait face à une épidémie de méningite. Dans le pays, les autorités sanitaires mettent en place le dispositif de riposte au vu de la cote d'alerte atteinte notamment par la ville de Batié dans le sud-ouest du pays. À Ouagadougou, dans le pays des hommes intègres, nous retrouvons notre correspondant Issa Napon pour les détails.
Les autorités sanitaires du Burkina ont mis en branle le plan de riposte au vu du niveau d'alerte atteint par le département de Batié, un département situé dans le sud-ouest burkinabé. Le directeur de la lutte contre la maladie, Dr Brice Wilfried Bikaba.
Le seuil d'alerte, il faut dire que c'est lorsque le district atteint 3 cas pour 100 000 habitants, c'est le seuil à partir duquel vraiment on sommes vraiment en vigilance. Et le seuil épidémique, il est de 10 cas pour 100 000 habitants. Nous avons observé que le district sanitaire de Batié avait atteint le seuil d'alerte, ainsi que le district de Titao. Donc, sur recommandation du Comité national de gestion des épidémies, nous avons décidé exceptionnellement cette année de faire une campagne de vaccination dans les deux districts.
Un réveil nécessaire du dispositif, même s'il n'y a pas lieu de s'alarmer, indique celui qui était encore lundi, le ministre de la Santé du Burkina Faso, Dr Smaïla Ouedraogo.
Il y a de fortes chances que nous n'ayons pas d'épidémie. Les éléments qui nous font dire qu'il y a de fortes chances sont lesquels? Nous essayons de comparer nos statistiques. Donc, c'est-à-dire le nombre de cas, par exemple, de méningite qu'on a eu à enregistrer l'année passée au cours des 5 premières semaines à celle qu'on a enregistrée aujourd'hui au cours des 5 premières semaines de l'année 2017. En termes de statistiques, l'année passée, durant les 5 premières semaines, nous avions 433 cas de méningite. Cette année, nous avons 298 cas. L'année passée, on avait 49 cas. De décès de méningite. Cette année, malheureusement encore, on a des décès qui se chiffrent à 16 cas, moins importants que l'année passée.
Cette activation du système de riposte a valeur plutôt de prévention pour ces dernières semaines, selon le docteur Bis Wilfried Bikaba, directeur de la lutte contre la maladie. Il dresse le dispositif.
Ça c'est un plan qui comporte pré-épidémique, les phases donc père-épidémique et post-épidémique, ce qui suppose qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises en termes donc d'acquisition de médicaments et de mettre à disposition des centres de santé, étant donné que la prise en charge de la méningite donc est gratuite. Et ensuite, nous avons les acquisitions des réactifs, la mise à disposition des agents de santé directifs, du rappel donc des précautions à prendre et des protocoles à observer. Nous avons également depuis un certain temps commencé un certain nombre d'activités de sensibilisation, se protéger de la poussière, humidifier donc les muqueuses nasales avec donc du beurre végétal et également aller dans une formation sanitaire lorsqu'on a une fièvre.
Situé dans la ceinture méningitique de la sous-région, le Burkina Faso est balayé à cette période de l'année par l'harmattan, un vent chaud et sec qui charrie des quantités de poussière contenant les germes de la méningite. La combativité des autorités sanitaires permet cependant de juguler ces méfaits grâce notamment au travail de prévention mené dans tous les districts à risque. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des effets du tabac sur la santé.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour toucher du doigt la réalité du phénomène.
Nous recevons comme invité le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il nous expliquera comment se développe la dépendance chez les fumeurs et les conséquences sur le corps humain.
Nous écouterons le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. Il nous dira ce que font les autorités pour réduire la consommation du tabac.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui vous promène dans l'espace avant de clore cette édition. Eh bien, découverte autour d'une étoile naine, Trappiste 1, dans le système de 7 planètes de la taille de la Terre, dont 3 d'entre elles, elle pourrait abriter la vie, révèle une étude publiée dans Nature. Elles sont situées dans notre galaxie à seulement 39 années-lumière de la Terre. La recherche du vivant sur une autre planète est désormais à portée de main, estime l'astrophysicien Didier Queloz, co-auteur de l'étude, joint par Nathalie Barge.
C'est vraiment une avancée remarquable parce qu'en plus d'être 7 planètes, c'est 7 planètes pour lesquelles on va bientôt pouvoir étudier leur atmosphère, ce qui n'a jamais été fait et ce qui est vraiment très excitant. Comme l'étoile est très petite, eh bien, les planètes laissent une grosse trace, elles passent juste devant, les planètes ont la taille de la Terre, elles font un gros transit. Et quand on a un transit relativement important, ça devient relativement facile d'aller chercher des détails, comme par exemple l'effet de l'atmosphère autour de ces planètes. Alors on ne l'a pas encore fait, parce qu'on n'a pas encore regardé avec le bon télescope, mais c'est quelque chose qui pourra être fait. Et ça, c'est unique au monde, ça n'est jamais arrivé, et c'est vraiment quelque chose qui va quelque part apporter une nouvelle information sur le monde des exoplanètes, qui est en fait, est-ce que les planètes qui ont à peu près la densité de la Terre, donc probablement qui ont des structures identiques à celles de la Terre, est-ce qu'elles ont toutes des atmosphères? Et si elles ont des atmosphères, quelle est la nature et la structure de leur atmosphère?
39 années-lumière, qu'est-ce que ça représente en année terrestre?
En fait, en termes astronomiques, c'est vraiment tout près, mais c'est vrai, en termes humains, c'est extrêmement éloigné. Donc là, on parle de distance astronomique. Dès que vous voulez aller vers une autre étoile, vous êtes déjà à des distances qui sont inhumaines. Donc il faut complètement oublier la notion de distance. Par contre, quand vous comparez les distances de ces étoiles avec les distances de toutes les étoiles qu'il y a dans la galaxie, alors elles sont extrêmement proches parce que la galaxie, elle a 100 millions d'années-lumière de taille. Et puis l'univers, il a à peu près 16 milliards d'années-lumière de taille. Donc vous voyez, là, on est vraiment tout autour de nous, dans la banlieue autour du système solaire.
Est-ce qu'il est possible, donc, qu'il y en ait certaines qui soient habitables?
On en a 3 qui sont dans la zone habitable, mais encore une fois, ça ne veut absolument rien dire, parce que, par exemple, Vénus, sur notre système solaire, est dans la zone habitable et on ne peut pas y habiter parce que l'atmosphère de Vénus ne permet pas d'y vivre. Donc en fait, je crois que c'est là l'avancée exceptionnelle qu'il y a avec cette découverte. Et ça, on pourra le faire. Et ça, c'est une première mondiale. Ça n'était pas possible, ça ne sera pas possible pour toutes les autres planètes qu'on a trouvées, mais c'est effectivement possible pour celle-ci. Donc demain, on va vraiment avoir une démarche scientifique. Et à partir des données, on va tirer des conclusions. Et là, on va pouvoir avoir un modèle de l'atmosphère de ces planètes. Et là, on pourra répondre à votre question.
Le professeur Didier Queloz, chercheur du groupe d'astrophysique du laboratoire de Cavendish à Cambridge et également à l'Université de Genève.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. La mise en onde de Dessalinge Makonnen, à la console Suleiman Talaoré. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Eric Manilakiza vous dit au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM, Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.